La belle Madame Levasseur, chapitre 3. Le reste de la semaine, Daniel évita soigneusement sa belle-mère. Il travaillait chez lui le matin, sous couleur d'affaires déjeuner seul avant elle, sortait ensuite toute la journée, dînait dehors, sauf les jours où, elle partie, il savait n'avoir pas à redouter sa présence. Après, il allait au théâtre, à l'opéra comique, avec d'anciens camarades de conservatoire ou de collège, rentrait tard et s'installait à son piano jusque bien loin dans la nuit. Un soir, pourtant, elle le rencontra par hasard en visite. Il se leva dès qu'il l'aperçut, sans lui faire qu'un salut correct. Une autre fois, qu'ayant un mariage de bonne heure, elle s'était mise à table plus tôt que de coutume, il entra, et en la voyant, fit un mouvement de retraite. « Faut-il que je m'en aille ? » dit-elle, et d'une voix si cinglée qu'il ne répondit point, devint pâle, et s'étant décidé à s'asseoir en face d'elle, se montra poli, presque aimable, peut-être à cause des domestiques, s'informant d'une migraine qui l'avait empêchée la veille de sortir. Au premier mot, d'ailleurs, elle l'interrompit. « Comment savez-vous ? » Cette question parut l'embarrasser. Puis, l'air contraint, il s'embarqua dans une phrase. Ses fenêtres donnant sur la cour, il l'entendait monter en voiture, et, comme il était fort empêtré, elle vint à son secours, et, souriant de cette explication qui n'expliquait rien, de ce ton d'ironie qu'elle réservait au personnage, car elle était humble et douce aux petits, se souvenant qu'elle avait été l'un et l'autre. « Cela vous intéresse donc, ma santé ?» lui dit-elle. « Mais sans doute, » fit Daniel. Et il ajouta, « Mon piano ne vous a pas gêné ?»« Non, je ne l'entends pas. Nous sommes très loin. » « Heureusement. » Il répéta, « Oui, heureusement. » Et la saluait. Mais elle le rappela, « Est-ce que vous aimez le théâtre ?»« Comme tout le monde. » « Si vous désiriez des places, des billets, j'en ai souvent, on m'en envoie. Aussi pour les expositions, les concerts. Voulez-vous ? » ?»« Je vous remercie beaucoup. Je n'ai besoin de rien. » Et il sortit. Mais elle fut lâche et le retint encore, soucieuse de connaître jusqu'où iraient ses refus. « Me ferez-vous le plaisir de dîner avec moi ce soir ? J'ai quelques personnes, oh, en tout petit comité, des intimes. » C'est que je suis déjà engagée. Je regrette infiniment. Et moi donc ? » Et claquant la porte, elle sortit la première pour remonter chez elle pleurer des pleurs de rage. Un parti pris, décidément. Il était implacable. Alors pourquoi revenir ? Puisqu'il la détestait, puisqu'il le lui avait dit et que son silence le criait, et cette glace de manière, et ces non entêtés, et cette obstination à la fuir. C'était cela, le doux monsieur Danny, la petite fille qui si gentiment lui tendait son front autrefois, lorsqu'elle arrivait le jeudi et le dimanche, et qui faisait la grosse voix afin de renvoyer Bobèche, un saint Bernard terrible, gardien de la villa. Et dire que plus de 2 ans elle l'avait attendu. Plus de 2 ans pour lui, rien que pour lui, elle s'était tenue haute et seule, comme une femme de marbre sur son piédestal de beauté, sacrifiant la fleur de sa vie. À quoi ? Au fragile espoir d'une maternité incertaine. La sotte ! Bah, n'y pensons plus, fit-elle, essuyant ses larmes. Cela serait trop bête de se donner des tourments, de se rendre malade peut-être, et de jouer son bonheur présent, les délices d'une passion ardente contre la chance d'une affection tiède. Daniel la haïssait. Eh, que lui importait sa tendresse ou sa haine ? Daniel ? Qui donc cela, Daniel ? Est-ce qu'il était son enfant ? Alors, les nerfs assagis, elle édifia des projets. Elle effaçait Daniel de son cœur, l'oubliait, agissait dorénavant comme s'il n'était pas revenu, et ne devait jamais revenir. Point de colère, cela marquerait du dépit. Et quel dépit pouvait-elle avoir ? Il ne l'aimait pas. Quel mal cela lui faisait-il? S'en portait-elle moins bien? Pourvu que l'autre l'aimât, le reste, ah! Froide avec lui, rien de plus, une politesse hautaine. Désormais, elle n'entendait plus s'immoler. Chacun pour soi, telle serait sa morale, celle du monde, après tout. Eh, mon Dieu! La vie était-elle si longue et si bonne qu'il fallut la courcir d'ennui, l'empoisonner de vétille? Le beau malheur, en vérité, cette haine de gamin. Aussi bien, quand même il l'eût désarmé, il était trop tard, puisque son cœur était plein. Ah oui, plein et débordant d'amour. Un reste de scrupule lui venant, elle les raya à grands traits de pensée. Est-ce qu'elle était coupable d'avoir un amant? Combien à côté d'elle, et non des moins vertueuses, ne s'en tenait pas là? Pourquoi aussi l'avait-on délaissée, livrée à ses seules défenses, et offerte, et promenée? Elle n'avait pas eu de mère, elle, ou si peu, et de si pauvre exemple. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'elle ne fût pas meilleure que les autres. Pas pire non plus, en somme. Pour bien marquer sa volte-face de conduite, elle descendit à la serre, afin d'y chercher son anneau qu'elle y avait oublié. Quoiqu'elle n'eût rien trouvé, elle fredonnait en remontant. « Ah, vous me détestez, mon beau monsieur. La 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 la. C'est cela qui m'est égal, par exemple. » Comme 3 heures sonnaient, elle passa dans sa chambre, s'habilla vite, avec une extraordinaire volubilité de parole, un luxe d'ordre et de contre-ordre et un entrain de gaieté qui étonnèrent ses femmes, habituées à une maîtresse plus en dedans. Mais son vis-à-vis au perron, la portière ouverte, un désir fou lui traversa l'esprit. Le pavé était sec et le ciel était clair. Elle renvoya sa voiture, remonta changer de robe, puis, court vêtue et long voilée, se donnant congé d'une vente, de son tour de bois quotidien, de ses courses et de ses fives aux cloques, elle s'en fut à pied, rue de Bellechasse, surprendre son amant qui ne l'attendait pas. Le Vassard ne rentra qu'au commencement de l'autre semaine. Il n'avait pas appris de sang-froid la brusque arrivée de Daniel, qu'il savait des plus mal disposés à l'égard de Jeanne. Lui aussi, il s'était accoutumé à cette absence, qui, après tout, lui était commode, et lui épargnait des soucis d'intérieur. Jamais il ne s'était plaint de ce retour sans cesse, et périodiquement reculé, que des quelques banalités attendries dont il avait coutume, 4 fois par mois, de terminer ses courbillers paternels, abrégés et ponctuels comme des circulaires commerciales. Une dépêche qu'il reçut de Daniel le renversa de surprise. Daniel était à Paris. Daniel était rue Malesherbes. Il y répondit par l'annonce de son arrivée prochaine, mais résolut de voir venir, et en conséquence, retarda de quelques jours son départ. Puis, un matin, à l'heure du déjeuner, comme il revenait du bas Gerville, le Gerville des filatures, où l'appelaient les travaux d'œuvre d'une cité ouvrière, dont il avait depuis peu décidé la création par pur intérêt politique, une lettre arriva. Très pressante celle-ci, dans laquelle le nom de Jeanne n'était point prononcé. « Ça n'a pas l'air chaud, chaud !» dit-il, en la parcourant de loin au travers de son lorgnon de presbyte. « Il est temps que je m'en mêle. » 5 heures plus tard, il frappait à la porte du boudoir de sa femme, et, sans attendre la réponse, entrait droit avec son aplomb de seigneur et maître. Elle se défaisait à côté, et entendant du bruit, dépêcha sa femme de chambre afin de voir qui c'était. « C'est moi, » dit-il alors de sa voix ordinaire, qui était haute comme s'il eût voulu par là racheter l'exiguïté de sa taille, tandis que d'un geste polisson il chassait la camériste. « Vous me donnerez bien 5 minutes ?» fit Jeanne de chez elle. « Oui, oui, dépêche-toi. » Et pour tuer ces 5 minutes, car n'étant pas homme de pensée, il ne savait rester oisif de ses membres, il visita la pièce en maître de maison entêté d'ordre et de symétrie, replaçant les meubles, coupant de l'ongle les fleurs fanées des jardinières et raccrochant les embrasses. Lorsque Jeanne parut, il laissa le store dont il vérifiait les cordons, et très galant, après s'être regardé dans une glace, il vint lui baiser le poignet. « Comment se porte la belle Madame Levasseur ? » dit-il. Et ce petit homme, toujours soigneusement musqué et verni de la pointe de ses bottines à ses accroche-cœurs en hameçon sur des favoris teints d'un noir bleu, se cambrait, s'étalait si fort qu'il en paraissait grand. « Mais assez bien, je vous remercie. » « je sais, les journaux m'ont tenu au courant. Hein ? Succès complet à l'Élysée. Je regrette bien de n'être pas venu. Mais j'avais des mariages, sans parler de ma cité qui n'en finit pas. Et le président ? Aimable, comme toujours. Et ma reine ? Aussi, comme toujours. » dit-elle, étouffant un bâillement sous sa main. « Une robe de Félix ?» interrogea Levasseur. Puis, continuant en style de journal de mode, il lui demanda quelques détails de toilette. Y avait-il des paniers ? Un pouf ? Une tunique ? De quelle façon relever ? Combien de mètres de queue ? Et Madame Street, comment était-elle mise ? De l'air profond d'un banquier qui tâte le fort et le faible d'une affaire. Elle cachait bien une affaire, en effet, ses parades continuelles, ses batailles de beauté et de tapage chaque jour livrées, chaque jour gagnées depuis 3 ans. Affaire dont Levasseur allait bientôt toucher les bénéfices. Ce siège à la chambre où il rêvait de décrasser ses millions. Et peut-être n'y avait-il pas moins de passion politique que de passion charnelle sous l'apparente sottise de ce mariage, dont le monde ne s'était pas fait faute de médire, à l'exception pourtant de Madame Hervé de la Moselle, dont il était un peu l'ouvrage, puisque entre le père de Jeanne, Mario Félizas, l'auteur de Doris, vieil habitué de ses jeudis, et le futur homme public, qui y fréquentait seulement depuis la chute de l'Empire, c'était elle qui avait servi d'intermédiaire. « Et Doucerin ? » reprit Levasseur. « Tu l'as vu ? T'a-t-il dit quelque chose ? Son élection au Sénat ? » ?»« À la fin du mois prochain, ou au commencement de l'autre ?» repartit Jeanne distraite. « Bravo ! Regarde-moi un peu ! Toujours splendide ! Seulement une idée bas, les cheveux ! C'est la mode ! Il n'y a pas de mode pour toi qui l'a fait, cré-coquin ! Ah, si je n'étais pas là ! Les femmes, ça ne sait jamais ce qui leur va ! Qu'est-ce que c'est que ce machin-là » ajouta-t-il, poursuivant d'un œil expert l'inspection de sa mine, et il posait le doigt sur son corsage lâche à l'enfant qui lui bouffait la taille. « Tu dînes donc ici ?»« Oui, je n'ai rien. »« Oh, il ne faut pas me le reprocher. »« Rien ? Comment rien ? Avant 11 heures ? Non. La belle Madame Levasseur a congé, » dit-elle avec un soupir là. « c'est égal, tu sais que je n'aime pas les négligés, pas plus dans mon hôtel qu'ailleurs. » Il y eut un silence. Levasseur aurait bien voulu que la première, elle lui parlât de Daniel. Sujet délicat, autour duquel il tournait depuis un gros quart d'heure et dont il n'osait pas commencer l'attaque, car il n'était plus le satrape d'autrefois. Et cette femme, regardée de haut jadis, aujourd'hui parée, grandi de ses victoires mondaines, de cette royauté de mode, de beauté et d'esprit qu'elle avait su d'emblée conquérir, lui imposait un peu. Outre qu'il ne pouvait guère se trouver seul avec elle, sentir peser sur lui ce grand regard velouté, qu'il ne se rappela de lointaines, de malpropres aventures où il n'avait pas joué précisément le beau rôle. L'une en wagon, Jeanne donnait encore des leçons à Daniel. Après, par exemple, cela avait été fini. Certains jeudis d'été, que, revenant de Ville d'Avray ensemble, il avait, dans la nuit d'un tunnel, tenté de lui faire violence. L'autre, l'hiver suivant, rue d'Enfer, un matin, que vêtue seulement d'une sorte de péplum, elle posait dans l'atelier de son père. Les mesures étaient bien prises cette fois. Félizas, complice, était sorti sous un prétexte, les laissant seuls tête à tête. Mais avant que sa main de vieux faux n'eût effrayé cette gorge nue, Jeanne l'avait chassé. Oui, chassé. Et ce souvenir, quand il lui remontait, le faisait assez petit garçon devant elle. Comme il se taisait toujours, il se résigna à parler. Et pinçant entre ses doigts un petit fil égaré sur la manche de Jeanne. « Mais, s'exclama-t-il brusquement, tu ne me dis pas, il y a quelqu'un d'arrivé depuis que je suis parti. Daniel est revenu. » Sans doute. Vous ne le saviez pas ? » Au lieu de répondre, il essaya d'attraper son regard, comme s'il eût souhaité d'y lire ce qu'elle ne disait point. Et sans y parvenir, poursuivant sa période dans un rire bonhomme qui lui hochait les épaules, « Ah, ça, j'espère que vous serez bons amis, » fit-il. « Cela dépendra de lui, » repartit Jeanne d'un ton froid. De quelque façon qu'il la retournât ensuite, quelques phrases qu'il lui tendit en traquenard, avec de malins retours de questions, il ne put rien tirer d'elle autre chose. Et lorsque la cloche du dîner le chassa, il s'en fut, pestant contre les femmes qui mettent un bœuf sur leur langue. Car s'il n'était pas bachelier, n'ayant poussé ses classes que jusqu'en quatrième, il aimait à le faire croire aux autres et à lui-même, et rhabillait volontiers de citations qu'il entendait très mal jusqu'à ses marchés d'affaires qu'il entendait très bien. « Monsieur Daniel est chez lui ? » demanda-t-il à Joseph qui l'attendait dans sa chambre, en train de préparer avec une minutie de serviteur ancien le linge et les vêtements de son maître. « Je ne pourrais pas dire à monsieur, » souffla le gros homme. « Eh bien, allez-y voir et envoyez-le-moi s'il y est, » continua-t-il résistant. Crainte de n'apprendre rien de bon, à une manie familière qu'il avait d'interroger ses gens sur les menus faits arrivés en son absence. Peu de minutes après, des pas coururent à travers le couloir, et le vassar étant sorti, reçut de tout son élan Daniel sur sa poitrine. Entrevue poignante pour ces deux hommes, qui s'aimaient, celui-ci d'un amour violent et nerveux, où il y avait l'outrance de repentir et de chagrin silencieux, celui-là de cette affection amoindrie qu'on jette aux êtres inférieurs, mais de l'affection enfin, et qui, chacun, avait à se faire pardonner quelque chose, l'un son mariage, l'autre son absence. Et ce fut un feu roulant, crépitant d'embrassades, des bouts de mots étranglés. « Papa, mon Daniel !» Puis des étreintes geignantes, des rires qui sanglotaient, des sanglots qui riaient. « Cré coquin, comme nous avons embelli !» dit le père qui se remit le premier. « Et moi, » ajouta-t-il, se plantant de plein face en une pose à photographier, « est-ce que tu me trouves très... très décati ?»« Mais non, tu n'as pas changé du tout !» Se prenant par le bras, ils descendirent. Et il devisait doucement de Rome et de Gerville, les yeux brillants et encore quelques hoquets dans la voix. Comme il traversait le hall et n'était plus séparé de la salle que par une double portière, ils firent halte en même temps. Et, de même que quelques minutes avant, dans le boudoir de Jeanne, un silence les tint debout, immobile, gêné. Là aussi, ce fut le vassar qui parla. Il eut un geste du cou vers la porte, et sans désigner sa femme autrement, retrouvant juste à point dans sa tête la phrase qui lui avait servi pour elle, « Ah, ça, » dit-il, « j'espère que vous serez bons amis. » Daniel, lui, espaça un peu sa réponse. « Je ne demande pas mieux, » fit-il en chevrotant beaucoup. Le dîner fut morne, cérémonieux et vide. Encore que le vassar s'efforça de l'emplir de tout son bagout d'ancien vendeur de la maison de Blanc, Maheu, frère, car ses débuts avaient été modestes. Aussi bien il ne se permit pas une remarque au « monsieur », au « madame » que Daniel et Jeanne échangeaient avec une raideur d'estoc. Mais dès le café servi dans le billard, un « merci madame » lancé haut par Daniel en refus de la tasse que sa belle-mère lui offrait, lui servit de préambule. Et, après un carambolage de digestion, s'asseyant sur ses jambes écartées d'un petit roulis de hanches qui lui était habituel, un doigt passé dans l'entournure du gilet, tandis que de son autre main il s'appuyait sur sa queue. « Halte là ! » fit-il. « J'en ai assez, moi, de vos monsieur, vous, madame, vous. Est-ce que vous plaisantez ? Monsieur, madame, croirait-on pas ? Pff, toi, Jeanne, comment l'appelais-tu avant ? Réponds. « Monsieur Danny, » dit-elle en riant d'un petit rire gelé. « Eh bien, supprime le « vous » et le « monsieur », ça sera parfait. Et comment l'appelais-tu, toi, monsieur Danny ?»«
Mademoiselle, »
prononça Daniel gravement.
« Mademoiselle ? Ah, cré coquin, mademoiselle. Bah, appelle-la Jeanne, ou ne l'appelle pas, si Jeanne tout court te semble trop. »
Il chercha un moment quelque adjectif de position à mettre comme une cale sous sa phrase boiteuse, mais en guise d'adjectif, ce fut une idée qui lui vint. « À présent qu'on s'embrasse, » dit-il. Et croyant décocher un mot très drôle dont il rit par avance, « Tant que ça n'est pas signé, il n'y a rien de fait. Verba volante scripta manant. » Séance tenante, malgré leur répugnance réciproque, il exigea que Daniel baisât Jeanne sur les joues.
« Allons, voyons, est-ce que ça n'est pas la petite mère, mater familias ? Monsieur ne la trouve pas à son goût ? Gré coquin, on t'en donnera, la plus belle femme de Paris. »
Désormais, on se vit au repas. Après, on faisait un tour de serre, en causant, et le soir, assez souvent, on se retrouvait dehors. Le premier soin de Levasseur, à son déboté de Gerville, avait été de présenter Daniel dans son monde, qui n'était plus son monde d'autrefois, la beauté éclatante de Jeanne lui ayant ouvert d'autres portes. Il en était fier, au fond, de ce prix de Rome, dont il riait, qu'il traitait du haut de son mépris commerçant pour l'art et ceux qui tâchent d'en vivre, pas loin de croire qu'un croque-note était un être de dessous et qu'on se faisait musicien par incapacité de mieux. Cela colorait sa raison sociale d'un petit vernis artiste qui ne laissait pas de lui régaler les oreilles. Près de certains, cela rehaussait ses millions négociants, lui donnait pied, de droit, au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, où il avait affaire depuis qu'il guignait l'héritage politique de Doucerin. Lui valait des saluts, des questions. « Eh bien, votre prix de Rome ?» Aussi, cette tournée de visite eut-elle quelque peu l'allure d'un triomphe. « Je vous présente mon prix de Rome, » criait-il dès l'entrée. Et si fort et d'un tel ton d'assurance comique, avec le besoin de bruit et de réclame qu'il avait, que plus d'un se levait, pipé par cette annonce, comme s'il eût dit « La cour, messieurs !» ou « Le roi !» Entre-temps, il ne négligeait rien pour rapprocher Jeanne de Daniel. Leur persistante froideur, la cérémonie de leur rapport, cette réserve mêlée d'ironie et de respect, le blessaient, ainsi qu'un meuble hors de sa place. Outre que son prévoyant égoïsme y lisait une pépinière d'ennui pour l'avenir, qu'il s'aimasse peu lui importait. Ce qu'il voulait, c'était la paix chez lui, l'ordre. Enfin, ce qu'en son langage de commerce il nommait « la bonne règle ». D'abord, il s'astreignit à ne pas les laisser seuls. Encore que cela dût lui coûter ses habitudes de plaisir, à être là toujours entière, pendant, après les repas, et bout en train, et bonhomme, exagérant sa rondeur, rompant la glace à grand renfort de gaieté. « Voyons, est-ce qu'elle n'est pas gentille ? » disait-il en poussant son fils vers sa femme. Et il faisait l'article, la détaillait par le menu, avec le même cynisme d'audace qu'il promenait dans le monde, par une sorte de manie vantarde et marchande. « Hein ?
cette attache de cou, est-ce grec, ça, oui ou non? Et si tu voyais sa jambe? » ajoutait-il plus bas dans l'oreille de Daniel. Jeanne en rougissait de colère et parfois vidait la place. Le lendemain, il se rattrapait sur ses qualités morales. « Va, elle n'est pas méchante, un peu bébête, comme toutes les femmes, mais pas méchante pour deux sous. » Daniel avait aussi son tour de panégyrique. « C'était un brave enfant que le petit Mozart, un cœur d'or, sa mère tout crachée d'ailleurs, le même tempérament lymphatico-nerveux. Pas fumeur, par exemple, et d'un mazette au billard. Mais la perfection est-elle de ce monde ? » Et il finissait « Tiens, ma reine, embrasse-le, montre-lui que tu ne lui en veux pas d'être parti si longtemps. Et toi aussi, que tu ne lui en veux plus d'être la femme de ton papa. » De force, alors, il les prenait chacun par une main. Puis, les ayant mis bec à bec, il s'amusait beaucoup de leur recul effaré. Tantôt, c'était des histoires qu'il leur contait à tous deux, échos de son cercle des ganaches, potins de coulisses de théâtre ou de couloirs politiques. La petite chose, du deuxième quadrille à l'opéra, celle qui avait de si jolis mollets, avait lâché son vieux. Elle était maintenant avec le grand un tel. Madame de Tancey avait un amant, Martin Roy, le député. Ah, le proverbe disait vrai, heureux au jeu. La veille, au cercle, Tancey lui avait gagné au whist 64 fiches. Et regardant Jeanne, voilà pourtant ce que ça me coûte d'avoir une bonne femme, achevait-il dans un ricanement traîné. Tantôt c'était des parties qu'il improvisait, un spectacle ensemble. Tantôt, après dîner, une poule au billard. Un mort, s'ingéniant à les placer l'un près de l'autre, pouffant de rire lorsque Daniel ou Jeanne, s'oubliant, se donnaient des « monsieur » et « madame », ou que leurs mains s'étant frôlées, un même frisson de colère les repoussait. Les mots aigre-doux, les piquantes réponses, il se hâtait de les raturer sous des remarques obligeantes, dont l'obligeant était de son cru souvent. « Quel chapeau avais-tu donc hier au mariage La Baumel ? Daniel m'a dit qu'il t'allait divinement. » C'est qu'il s'y connaît, tu sais, le coquin. » Ou, il paraît, petit Mozart, que nous pianotons toujours comme un ange. C'est Jeanne qui parle, ce n'est pas moi. » Cela le conduisit à se déclarer fou de musique et à se plaindre qu'on ne lui en fît jamais. C'est un peu fort, dit-il. Comment? J'ai deux pianistes dans mon hôtel. Pourquoi ne joueriez-vous pas quelque chose à quatre mains? C'est que je n'ai pas de musique, repartit Jeanne. Mais votre fils en a peut-être. À quatre mains, je ne crois pas, intervint Daniel. Le lendemain, le Vassar en fit envoyer un ballot. Là, cette fois, je vais dire qu'on allume dans le grand salon, hein? Et bien que la musique ne lui fût rien moins qu'agréable, il ne manqua pas, toute une semaine, d'en réclamer chaque soir, ajoutant d'un air fin cette citation de grammaire « Musica me juvat me delectat ». C'était Sopit qu'il aurait dû dire, car elle l'endormait régulièrement. Mais là où avait échoué l'épais badinage de Levasseur, l'esprit ailé de Haydn et de Mendelssohn réussit. Des monosyllabes urgents, une mesure à compter, une reprise à faire, on en vint vite à des phrases plus longues. C'était maintenant, entre Jeanne et Daniel, un va-et-vient de pensées, des discussions de métier ou d'art. Il débutait par un « Ne trouvez-vous pas ?» et en avait pour une heure à remuer des idées, à rompre des lances en faveur, celle-là de la vieille, celui-ci de la jeune école. Ah, Wagner ! Il s'arrêtait de jouer. Et tandis qu'elle écoutait, pensive, un coude sur le clavier qui sonnait de loin en loin, virgulant d'une note douce les improvisations de Daniel, lui partait en guerre, célébrait le maître,
diminuait, débrouillait son chaos d'harmonie afin de le mettre à hauteur d'une intelligence rebelle. Donnait des exemples d'une main, discourait des doigts après avoir discouru de la langue, reprenait sa phrase, la montait jusqu'au dithyrambe et, à court de mots souvent, fermait sa péroraison par une marche, une strette, un cœur, un acte tout entier. Parfois, quand le piano se taisait, Levasseur, éveillé en sursaut, grognait un « Eh bien, qu'est-ce que vous trafiquez donc ?»«
C'est votre fils qui refait mon éducation, » répondit Jeanne. « Dormez, dormez, ce n'est pas pour vous. »
Sorti de là, par exemple, ils retrouvaient leur rancune. Pas plus d'intimité qu'avant, pas moins de politesse et pas moins de respect. Ils n'étaient Daniel et Jeanne, tu et toi, qu'en présence de Levasseur. Même alors, ils évitaient de prononcer leur nom, cherchaient des phrases, se parlaient à la troisième personne ou utilisaient son entremise. « Votre fils, ta femme. » Ce qui n'empêcha point que celui-ci ne les crût remis, ou sinon en bonne voie. Et, pensant accélérer les choses au moyen de quelques tête-à-tête ménagés, il s'arrangea pour les laisser seuls, sans se douter que, lui pas plus tôt parti, le tête-à-tête se dénouait et chacun allait retrouver sa solitude. Il fit mieux. Un mardi, il les envoya aux Français, dans sa loge, prétextant un rendez-vous d'affaires. Quoiqu'il eût promis de les y aller rejoindre, il ne parut pas au théâtre, et le lendemain ne s'excusa point, mais se contenta de cette remarque. « Eh bien, je vois que vous ne vous êtes pas dévorés. » Une autre fois, étant empêché de sortir par un peu de goutte qu'il avait, il pria Daniel d'accompagner au bal sa belle-mère. Bientôt ce fut une habitude. Tout ce qui n'était pas strictement politique, électif, comme il disait, toutes les soirées de chic, de première, où sa femme, prise dans l'engrenage du monde, était presque forcée de paraître, il s'en remit à Daniel du soin de l'y conduire. « Tu veux bien te charger de Jeanne ?» lui disait-il après dîner. « Moi, j'ai affaire. » « Ou la goutte. » Moi même, un cigare à finir. » Et il ajoutait, « Ça vous fera faire connaissance. » Puis il supprima les prétextes et confiait Jeanne à son fils avec ces mots, « Je te délègue tous mes pouvoirs, et si elle n'est pas sage... » Achevant sa phrase d'un éclat de grosse gaieté satisfaite, tandis que le coupé filait, qui les emportait tous les deux. De temps en temps, il les prenait à part, elle ou lui. « Eh bien, commençons-nous à nous entendre ?»«
Mais oui !» répondait Daniel du bout des dents. « Mais oui !» faisait Jeanne de même.
Et lui de se frotter les mains.
« Les voilà rabobinés » pensait-il.
Rabobinés, il ne l'était pas tant qu'il se l'imaginait. Certes, au bout d'un mois de ces frottements quotidiens, leurs angles s'étaient émoussés. L'accoutumance d'une vie côte à côte avait diminué les distances, où l'un et l'autre se retranchaient. Mais dans le demi-abandon de leur rapport, dans cette familiarité d'apparat, on devinait des susceptibilités sur leur garde. Et souvent, à travers des banalités de parole, leurs yeux s'aiguisaient encore et leurs regards croisaient de fer. Puis cela même sembla s'effacer. Tout s'use à la meule des jours, et rien n'est si tendre que de jeunes colères. Une espèce de camaraderie de bon voisinage les rapprocha peu à peu. Lorsqu'ils étaient ensemble en voiture, ils se rencognaient moins, garaient moins leurs jambes avec ces frissons retirés qu'ils avaient les premiers soirs, ne reculaient plus leurs gestes s'ils se rencontraient au hasard d'un jeu, d'un service. Vint un moment que cette existence à deux, qu'ils avaient acceptée, lui solennellement, d'une grâce un peu sérieuse, elle rageusement et non sans de sourdes révoltes, leur parut assez douce. Il n'était jusqu'à ce rôle que lui remplissait près d'elle, moitié subrogé tuteur et moitié frère aîné.
qui, éveillant en eux le rire de leurs 20 ans, ne désempara parfois ce qui leur restait encore de raideur. « Est-ce que vous me permettez le cotillon ?» lui demandait-elle tout bas entre deux portes. « Non ? Quel bonheur !» Et remontée en voiture, elle s'informait « Où me conduisez-vous maintenant, monseigneur ?»«
Au ministère. » »«
Ah oui, c'est vrai. Vous y tenez beaucoup à aller au ministère ?»«
Mais c'est mon père lui-même qui... »«
Et si nous rentrions, dites ?» Moi, je me contenterais parfaitement de 2 balles. Et vous ? »
Quelquefois même, elle disait « toi », jusqu'à temps qu'elle le dit toujours.
« Si vous voulez, » répondait-il.
Et abaissant la glace, il changeait l'ordre. « À l'hôtel !» Un soir, à l'ambassade d'Autriche, on les prit pour mari et femme, et l'huissier annonça de tout son aboi « Monsieur et Madame Levasseur. » Après, en revenant, cela les fit beaucoup rire. Ils ne se quittaient guère aujourd'hui, tant leur vie mondaine était entrelacée. Le jour, ils se retrouvaient en visite, aux ventes, aux concerts. Ils ne se levaient plus lorsqu'ils la voyaient entrer quelque part. Même elle le ramenait souvent. « Allez-vous du côté des Champs-Élysées ? » Ensuite, le bois était si près. Une fois, elle le chargea d'organiser une matinée musicale au profit d'une école, et tout le petit tintouin des lettres, des répétitions, des programmes, les rendit encore mieux camarades. L'ayant rencontré par hasard au Mirliton, elle laissa des amis avec qui elle était, et, coulant son bras sous le sien d'un gentil geste familier, « Je suis sûre que vous vous y connaissez en peinture, » lui dit-elle. « Voyons, y a-t-il quelque chose de beau ici ?»« Ah, Carolus Durand, mon peintre ordinaire, je vous préviens. Vous verrez le portrait blanc qu'il fait de moi pour le salon. »« Bastien Lepage, un Van Eyck, vraiment, au Louvre ? Mais je n'y avais jamais mis les pieds, moi, au Louvre. Je suis une ignorante, moi. Ah, si j'osais !» Elle osa, et il l'y conduisit le lendemain. Ses heures étaient si pleines maintenant qu'il ne restait plus de place pour l'amour, ce vieil amour de 8 mois, que le retour de Daniel avait comme fouetté de revif. Jeanne avait été d'abord tout fièvre, tout désir. Désir timide pourtant et fièvre précautionneuse. Malgré elle, et par une sorte d'effarement de nerfs, de frayeur inconsciente et de sensibilité d'épiderme où sa volonté n'était pour rien, elle s'était observée dans le monde, avait renoncé aux imprudences, aux baisers furtifs, aux rendez-vous parés, aux escapades de nuit et de jour, à tout ce qui affichait, faisant mystère de ses sorties, allant chez le comte à pied ou en fiacre, regardant derrière elle avant que d'y entrer, ne s'attardant pas et galopant l'entrevue. Puis, cette flamme de Saint-Martin s'apaisa. Elle arrivait bien encore rue de Bellechasse avec les fringales d'antan, la même hâte de jouissance, les mêmes nervosités fougueuses, les mêmes grelottements d'hystérie. Mais, sitôt liés l'un à l'autre, la bouche dans la bouche et les chairs mêlées, des vides emplissaient son âme distraite et lui tuaient son plaisir. Ce plaisir de la femme, si fuyant et subtil, qu'un rien. Une idée qui passe, une mouche qui vole, l'effarouche. Et lorsqu'ils s'embrassaient au seuil de cette chambre, toute suante et toute frémissante de leurs premiers amours, ce n'étaient déjà plus les « à revoir » qui avaient l'angoisse craintive d'éternels adieux. Peu à peu, elle se désaccoutuma de cette passion rien que physique. Moins satisfaite, la friandise de ses sens s'éteignit au tourbillonnement de vitesse d'une existence nouvelle que Daniel semblait prendre à tâche de remplir. Un après-midi, qu'elle se rendait rue de Bellechasse, elle croisa son beau-fils sur le quai et rebroussa chemin. Une autre fois, qu'elle avait accordé au comte quelques tours de Boston dans un bal, Daniel, en rentrant, lui dit de son air sérieux un peu triste « Il ne danse guère en mesure, votre beau monsieur Aragny. » Ce « votre » lui donna à penser. Désormais, elle s'abstint de danser avec lui, finit même par éviter les maisons où il fréquentait d'habitude. Tout cela la troublait aujourd'hui de voir son amant et son beau-fils en présence. Sorte de peur honteuse que jamais devant son mari elle n'avait éprouvée. Et, en dépit des suppliants billets du comte, elle ne retourna chez lui qu'un jour, tard, parce qu'il était malade, et 5 minutes seulement, après un quart d'heure de station à Sainte-Clotilde, encore que sa piété de couvent fût très refroidie, presque morte. Car si solide qu'elle eût bâti ses desseins, si épais qu'elle se fût cuirassée de cœur, il y avait une inquiétude dans sa vie. Une chose à laquelle, en un autre temps, elle n'aurait pas accordé une heure de pensée. La perte de sa bague, jetée sottement dans la serre, la poursuivait de craintes tatillonnes. Elle l'avait cherchée en vain, piétinant les plates-bandes, s'écorchant les mains aux feuilles épineuses ou coupantes. D'abord avec le seul regret du bijou, qui était à ses yeux un symbole, mieux même, un porte-bonheur, un palladium, ayant gardé des milliers d'autrefois de certaines superstitions de filles, puis avec de secrètes terreurs qu'un autre qu'elle ne le trouvât, et ses compromettantes initiales, J.A. Jeanne Andorre, gravées à l'intérieur de l'anneau. Jamais, entre elle et Daniel, il n'avait été question du passé. De ce passé qui, malgré eux, malgré leur silence réfléchi, les enveloppait. Souvent, des mots leur étaient venus aux lèvres, parfois même un « Tu te souviens ?»« C'est comme le jour. » Fruit hâtif trop tôt tombé et qu'on ne ramassait pas. Certains soirs, à l'opéra, pendant l'ère des « bijoux », au troisième acte de Fausse, une même pensée les remua. Ils étaient seuls, rien que deux, dans leur grande loge d'entre-colonnes, elle assise sur le devant, lui debout derrière elle, très près, si près qu'elle entendit piaffer son cœur. Alors, tournant la tête, elle fit « Cela te rappelle ?» Elle n'acheva pas, la voix fauchée par le regard de Daniel. Un de ces regards affilés des premiers jours, qui se promenait froidement sur sa peau diamantée, et une rougeur lui sauta aux joues. Elle venait de songer tout à coup que ces pierreries qu'elle avait, c'était peut-être en partie celles-là, dont, une après-dînée d'août à Ville-d'Avray, 9 ans plus tôt, lui et sa mère, par farce, avaient paré mademoiselle, et que depuis... Elle dormit mal cette nuit-là. Le lendemain, sa résolution était prise, elle parlerait. Depuis longtemps déjà, elle aurait dû le faire. Les dehors régaillés de Daniel, ses manières douces, la quasi-intimité de leur rapport présent, l'en avaient seule détournée. Comment croire que sa rancune fût vivante sous ce vernis d'amitié? Oui, certes, elle parlerait, elle se laverait de cette tâche. Sa haine passe, mais son mépris, oh non! C'était un matin de février, lourde neige. Le silence de la rue l'avait éveillée vers 10 heures, alors qu'un engourdissement de sommeil la reprenait. S'étant levée vite, la proie d'une fièvre de rêve qui lui palpitait encore dans le sang, elle courut à son cabinet de toilette. Une pièce rose, de style empire, comme la chambre, qui était, elle, couleur de vieil or, et dont les meubles grecs, la psyché à masque de sphinx, la baignoire d'argent posée sur des griffes de lion, les robinets en forme de dauphin à la queue tordue, les draperies droites, encadraient bien sa beauté d'un galbe antique. Son bain était prêt, elle s'y plongea. Puis, fraîche et de corps parfumé, à l'aise dans une flottante matinée de siciliennes garnie de martre, elle revint à sa chambre, sonna afin qu'on vînt ouvrir, et, s'asseyant devant un bonheur du jour, elle en tira une boîte profonde de cuir rouge, chiffrée d'un grand S double, sous lequel sa fière ou mélancolique devise était bizarrement écrite dans un ruban de platine, toujours plus. La clé était à la serrure. Elle ouvrit et un coup de lumière lui éclaira la face. Tous ses bijoux étaient là, luisants, chatoyants, miroitants. Et, un à un, elle les touchait, les inventoriait, cherchait à se souvenir. Celui-ci avait appartenu à Madame Levasseur. Celui-là, non. Mais elle s'embrouilla, remit tout. « Comment faire pour reconnaître ? » dit-elle. Lorsque son mari les lui avait donnés dans sa corbeille de noces, et, après, au cours de leurs années ensemble, elle n'avait pas soupçonné que quelques-uns pussent venir de l'autre, tant les pierres semblaient neuves dans leur monture rajeunie. Et c'était seulement ce regard de Daniel, la veille, qui avait allumé en elle cette idée. Les diamants qu'elle portait étaient à lui, puisque c'était ceux de sa mère, et Levasseur n'avait pas le droit d'en disposer de cela. « Si je lui demandais, » pensa-t-elle. Refermant l'écrin, elle traça quelques mots à la hâte sur une carte et, ayant sonné, « Ceci à monsieur, » dit-elle à la femme de chambre, « il y a une réponse. » Afin d'occuper les minutes vides de l'attente, elle fit des rangements, bouleversa des tiroirs, lisant d'anciennes lettres qu'elle déchirait à mesure, offres d'engagement ou de fortune, déclarations brutales ou troublantes, reçut du temps qu'elle courait le cacher et chantait souvent au jeudi de Madame Hervé de la Moselle, et conservait avec un vague plaisir, encore que jamais répondu. Au hasard d'un coffret, parmi des souvenirs d'autrefois, une petite montre d'or fleurie d'une poudre de diamant, la seule chose qui lui resta de sa mère. Un diplôme du conservatoire où elle avait été 2 ans dans la classe Marmontel. Son livre de première communion et des images, beaucoup d'images, données par les bonnes sœurs. Un billet de Daniel lui tomba sous les yeux. Il était vieux, ce billet, d'une main pas encore formée, sur du papier paille peint dans le coin d'une hirondelle. Les premières lignes droites, les dernières titubantes, avec des fautes d'orthographe et un pâté à la signature, qui avait éclaboussé d'une pluie d'encre le nœud vainqueur du patarafe. Cela commençait ainsi. Ville d'Avray, ce 23 septembre. Mademoiselle, je vous écris pour vous dire que vous ne veniez pas jeudi parce que je ne pourrais pas prendre ma leçon de piano, parce que maman est un peu malade. » Et finissait, « Adieu, mademoiselle, je vous embrasse de tout mon cœur, votre élève respectueux et affectionné, Danny. » Elle l'avait toujours conservée, cette lettre, la seule qu'il lui eût jamais écrite, peu de jours avant cet odieux assaut de son père en wagon, qui avait tout d'un coup rompu leur bon rapport. Elle s'en souvenait, il devait y avoir dans l'enveloppe une petite feuille de citronnelle, parce que Daniel savait qu'elle aimait bien cette odeur-là. « Oui, la voici, » dit-elle. Et une larme glissa de ses yeux sur cette petite chose jaunie, racornie, croquante, dont le parfum s'en était allé avec les « mademoiselles » et les « je vous embrasse ». Comme on frappait à la porte, elle rangea tout devant que de dire « Entrez !» C'était la femme de chambre qui lui rapportait son billet. Monsieur était déjà sorti. « Puisque c'est comme cela, je vais tout lui rendre, » pensa Jeanne, dans un de ces besoins de dépouillement bêta qui viennent après des douleurs nerveuses. Elle vida les diamants pêle-mêle dans un sac de voyage, ayant mis de côté seulement ceux qu'elle se rappelait bien à elle, et gagnant le couloir, elle écouta. Daniel était chez lui. Elle entendait son piano, qui tantôt roulait ses ondes sonores jusqu'à elle et tantôt se taisait. Mais un domestique qui passa la fit rentrer. Par un étrange caprice de pudeur, cela l'ennuyait d'être rencontré là. Le chemin libre, enfin, elle partit. Arrivée à sa porte, elle écouta encore. Un doute la poignait. Comment la recevrait-il ? C'était la première fois qu'elle se risquait dans son appartement, non sans avoir eu souvent l'idée curieuse de l'y aller surprendre. Elle se donna une minute pour apaiser les soubresauts de son cœur, et, ayant choisi un intervalle de silence, elle jeta deux petits coups timides que la portière amortit. Rien ne bougea, elle cogna plus fort. Et maintenant qu'il avait répondu, elle hésitait. Peut-être même s'en serait-elle retournée, si Daniel n'était venu ouvrir. Il eut une exclamation sourde, « Vous ?» et recula d'un pas, tandis que d'une main maladroite et tremblante, il rattachait les brandebourgs de son veston du matin. « Pardon, je viens pour affaire, » dit-elle. Et il y avait comme des trous dans sa voix. « Il s'agit d'une restitution. Voulez-vous, veux-tu m'accorder 2 minutes ?»«
Je suis à vos ordres, » murmura Daniel, les lèvres grelottantes, comme s'il avait très froid.
Il referma la porte et, débarrassant un fauteuil des feuilles de musique fraîches dont il était couvert, « Tenez !» essaya-t-il de dire, mais ce mot s'étrangla dans sa gorge. « Merci, ne dérange rien, j'en ai pour 2 minutes. Écoute, c'est quelque chose que je voulais, que j'aurais dû depuis longtemps te... Peut-être, après, tu me détesteras moins. » Alors, le regard collé aux palmes du tapis, la tête un peu versée sur une épaule, elle raconta d'une voix à peine haute son mariage, se taisant seulement des essais de violence qui l'avaient précédé. Les poursuites, les prières de l'un, les colères, les rabâcheries de l'autre, son père à lui parlant d'amour, son père à elle de devoir. « Si ce n'est pas pour toi, fais-le au moins pour ton pauvre père et pour ta pauvre sœur. » Ninise elle-même lui répétant, « Épouse-le donc, grosse bête, puisqu'il est si riche. Tu nous donneras ce que tu auras en trop. » Et Madame Hervé, de la Moselle, venant à la rescousse et parlant aussi de devoirs patriotiques, elle. « La République manque de jolies femmes, chère belle, et ce ne serait pas d'une bonne Française. » Le monde, enfin, déchaîné après sa jeunesse mûrissante, des propositions de galanterie, de théâtre, et sa vertu piégée, et son corps à l'encan. Tandis que cela, c'était l'honneur, et ce devait être si bon, être une femme, une mère, et qu'on respecte. 2 fois, elle avait dit non. Pourtant, il fallait se mettre à sa place. Elle finit dans une explosion de dégoût. « Alors tu as cru que ces diamants que ta pauvre maman m'avait prêtés une heure, tu te souviens, m'avaient donné envie ?» Et que pour les avoir à moi, j'avais manœuvré, pour avoir le nom, l'argent, l'hôtel, que sais-je. Tu as cru que c'était moi qui avais fait la cour à ton père, moi qui l'avais circonvenu, épousé de vive force et l'amour sur la gorge. Tu as cru... Ah ! Et de sa main libre, elle s'essuyait les lèvres, comme si ces mots, rien que ces mots, les eussent souillés. Tiens, les voilà, les diamants. Ayant d'un coup d'ongle ouvert le sac, que jusque-là elle avait tenu caché dans sa jupe, elle prit les bijoux à poignée, puis commença de les répandre sur la table, sur les sièges, sur le clavier, partout. Et c'était comme une pluie, qui, en tombant, sonnait, flamboyait. « Tiens !» faisait-elle à chaque fois que d'un grand geste, son poing crachait sa mitraille de gemmes. « Tiens les colliers ! Tiens les bracelets ! Tiens les bagues ! Les diadèmes !» Et à mesure, sa voix montait d'un ton et sa taille grandissait, belle d'une beauté de bacchante ivre, le feu de toutes ses pierres dans les yeux, de toutes ses pierres à borer qui étaient une des causes de sa chute, puisant toujours à main pleine, insensible aux piqûres des boucles, aux morsures des fermoirs, avec du sang en billes rouges à la pointe des doigts. Quand le sac fut vide, elle dévissa 2 perles noires qu'elle avait encore aux oreilles. « Tiens !» Puis retira un rubis qu'elle avait à la main. « Tiens, que ne puis-je aussi bien te rendre tout ce que ton père m'a donné en même temps que le nom de ta mère ?» Elle se tut alors et regarda Daniel, attendant qu'il parlât à son tour. Il était pâle, écrasé de stupeur, et semblait incapable de faire un mouvement, de prononcer une parole.
« Est-ce que ce n'est pas cela que tu voulais ?»
dit-elle d'un ton d'humilité tendre en s'approchant de lui. Il eut un frémissement des épaules. Elle lui tendit la main.
« Adieu, tu ne m'en veux plus !»
Il parut sortir d'une espèce de sommeil, et la parole lui étant rendue, il lui dit qu'elle était folle. Est-ce qu'il se souciait de ses joyaux ?
« Mais ils sont à toi.
Mon père vous les a donnés. Gardez-les. »
Il ne le pouvait pas.
Ceux de ma mère, peut-être. Mais où sont-ils, puisqu'il les a démarqués ? Dit-il comme à bout de force, en tombant assis devant son piano ouvert. Jeanne était déjà près de la porte. Elle revint, attendrie de pitié. Et, se penchant sur Daniel qui pleurait, la tête dans ses mains, les coudes sur le clavier, « Pauvre petit, murmura-t-elle doucement, c'est moi qui t'ai fait de la peine. Dis, Dany, est-ce que c'est moi ?» Il lui semblait redevenu enfant maintenant qu'il sanglotait de son même timbre mince et hoqueté de jadis. Cela lui rappelait une fois qu'il était dégringolé d'une échelle à Ville-d'Avray, un dimanche, après sa leçon en cueillant des cerises. C'était elle qui l'avait relevé, emportée dans ses bras. Même, elle se souvenait d'avoir baisé ses yeux, où de grosses larmes massives coulaient, pareilles à des pleurs de mercure. Et, reprise d'une sorte de maternité de mémoire, elle lui parlait câlinement, lui disait de ces mots diminués qu'on dit aux tout-petits. « Mon Dany, pourquoi tu pleures ? Est-ce c'est moi ? Dany, réponds-moi. » Puis, comme il sanglotait toujours sans parole, d'elle-même, sa bouche fraîche tomba sur son front brûlant. Ce fut un coup de foudre. Il se redressa avec un cri terrible, eut un recul épeuré vers la fenêtre, d'où il lui fit signe de partir. Et il y avait une telle folie de colère dans son regard que Jeanne, épouvantée, se sauva. Cette scène rompit du coup leurs habitudes. Et leur vie se dénoua. À deux jours de là, un après-midi que Jeanne était au salon, ayant eu fantaisie de jouer sur le piano de concert, son beau-fils entra, cherchant une partition oubliée.
« Tu vois, je suis dans Wagner jusqu'au cou. Et je m'enfonce, Daniel, je m'enfonce. Tu devrais bien venir me repêcher. »
lui dit-elle d'un air qui n'était gai que de surface.
« Excusez-moi. » répondit-il, on m'attend.
Viendras-tu au ministère ce soir ?
Il trouva encore un prétexte, une suite d'orchestre à finir pour pas de loup.
Seule encore une fois et abandonnée à elle-même, Jeanne se retourna d'abord vers Ninise, la seule enfant née du mariage de la Kreutzer avec l'auteur de Doris. Pendant le peu de mois qu'avait duré cette union singulière d'un jeune sculpteur à la mode et d'une chanteuse cosmopolite à chevrons. Elle était alors, cette Ninise, une grande fille rousse, riche en couleurs, la peau mangée de petites véroles, mais les traits fins et de larges yeux de bête très bons. Forte pour son âge, paraissant 20 ans plutôt que 15, elle était restée courte d'idées, avait, dans l'affaissement de mémoire que lui causaient des crises fréquentes de haut mal, oublié jusqu'à ses lettres, seridées jadis par Jeanne, et, vêtue presque en petite bonne, sans vouloir accepter l'aide d'une servante, elle faisait seule le ménage de son père, qui ne s'en plaignait point. Bien souvent, sa sœur avait tenté de l'attirer chez elle, toujours en vain. Elle se disait utile rue d'enfer, avait peur de ce que son pauvre esprit appelait « le monde riche » et, dans 4 ans, avait peut-être dîné 3 fois rue Malesherbes en compagnie de Félisas, que le Vassard n'aimait pas à recevoir, craignant sa bohème sans tenue et ses besoins d'argent. Quoi qu'il en fût, Jeanne l'alla prendre un jour, et, l'ayant habillée d'une de ses robes, elle la promena dans sa voiture. Toute une semaine, Ninise dut lui servir de poupée. Elle la nippait, la chapotait à la mode,
et c'était des parties ensemble, au bois ou au théâtre. Mais force lui fut à la fin de reconnaître que Niné s'ennuyait, regrettait sa cuisine, son train-train de raccommodage et de lessive.
« Qu'est-ce que tu veux, ce sœur? Je me plais mieux chez nous »
faisait-elle de cet air doux, un peu niaiseau, où allait bien son nom bébé de Ninise.
« Faut point m'en vouloir. Je suis qu'une bête, moi, tu sais bien. »
Et Jeanne revint au comte, qui se plaignait longuement, ardemment, par lettre de 6 pages, dont jadis la fine écriture hongroise, en broussailles, avait causé rue Malesherbe bien des joies de découverte, lorsqu'après 1000 peines, autant du cœur que des yeux, on faisait lever de là-dessous une jolie phrase toute chamarrée d'Orient, et qu'aujourd'hui on ne décachetait même plus.
« Vous m'aimez donc encore un peu, chère ?»
lui dit-il la première fois qu'ils se rencontrèrent de nouveau. Et dans son air et dans sa voix, perçait quelque dépit d'homme à succès, d'enfant gâté des femmes, accoutumé de donner, non de recevoir congé, lorsque, lui ayant baisé la main avec sa galanterie d'étiquette, il ajouta, souriant,
« Je croyais que vous ne m'aimiez plus du tout. »
« Du tout ?»«
Moi, ne plus t'aimer ? Moi ? Moi ?»
Ce fut un vrai désespoir. Elle n'adorait que lui, ne possédait que lui au monde. Et s'il lui manquait jamais, elle n'aurait qu'à mourir. Mais il n'était pas question de mourir, puisqu'elle l'aimait, et lui aussi.
« Lui aussi, n'est-ce pas ?
Jure-moi que tu m'aimes comme avant, » dit-elle. Elle ne se doutait pas qu'il ne pensait qu'à rompre, et que, sans fortune personnelle, là de cette vie de beau des beaux, menée depuis 10 ans dans beaucoup de capitales, il avait chargé un sien parent du comitat d'Ungward de brasser pour lui là-bas quelques riches mariages en même temps que son changement de résidence. Aussi bien le comte avait des coquetteries de rupture, ses lettres le prouvaient de reste. Et Jeanne eut tous les serments qu'elle souhaitait, serments de rassasié, proche cousin des serments d'ivrogne. Il fut d'ailleurs bon prince jusqu'au bout. Il avait aimé Jeanne, en somme, à fleur d'âme sans doute, et comme sont capables d'aimer ces beaux semeurs de passion, mais autant qu'il pouvait. N'avait-il pas quitté Madame Street pour elle? Et, de même que Platon, les poètes à la porte de sa République, il avait l'habitude de reconduire ses maîtresses chargées de couronnes à la porte de son cœur. Ils revinrent donc aux hôtels meublés derrière la Madeleine, car Jeanne avait gardé ses superstitions de frayeur et n'osait plus s'aventurer rue de Bellechasse. Un soir qu'elle descendait de l'un d'eux, elle se trouva nez à nez avec Daniel. Il la reconnut sous son voile et lui fouetta un salut d'une politesse tragique. Alors ils changèrent de quartier, choisirent une petite maison de la rue Mozart, une voie morte à quelques pas du Ranelagh, où ils s'attendaient souvent, rassurés par le silence du quartier et sa demi-solitude prudente. Mais Daniel les dépista encore. Une fois à dîner, devant son père, il demanda à Jeanne « Eh bien, as-tu fait une bonne promenade ?» Et comme elle se taisait, croyant que c'était à son père que s'adressait la question, il continua en la fixant. « Est-ce que ce n'est pas toi que j'ai vu tantôt ?»«
Où cela ? » dit-elle.
« Mais au Ranelagh, vers 4 heures. » Elle répondit sec, « Je n'y mets jamais les pieds. » Mais elle avait compris, il la suivait, et elle n'eut plus qu'une envie, dérouter sa police, annonçant haut la veille qu'elle irait là, et là, puis filant dès le matin, traversant des églises, des maisons à 2 issues, des magasins, descendant de sa voiture pour monter dans un fiacre, changeant de costume chez des fournisseurs complaisants, s'établissant partout des alibis, allant rue d'enfer recommander à Ninise.
« Tu sais, si on te demande, tu diras que je suis venue et que je suis restée jusqu'à 7 heures. »
Cette année-là,
La seconde moitié de février fut très douce. Un avant-goût de printemps qui faisait éclater les bourgeons, bâtir les nids et piailler les ménages de l'air. Cela lui donna des idées de campagne. Et, dans un inassouvissement pressé, une boulimie de jouissance, qui semblait avoir le flair du terme proche, elle fatigua le comte de rendez-vous presque quotidiens, soit en un cabaret de banlieue, soit en un hôtel de province, où elle arrivait de son côté, après avoir parcouru plusieurs voies, gagné des embranchements de ceinture, s'efforçant, par des complications d'aventures et de mystères, de rendre un peu de vernis à cet amour qui montrait la corde, un peu de ragoût à cette passion qui sentait le rance. Elle n'en continuait pas moins sa vie mondaine, réalisant des prodiges de santé et de tactique, des audaces et des vitesses de mouvement qui stupéfiaient Daniel et le mettaient en défaut. « Tiens, je croyais que tu travaillais !» lui dit-elle d'un ton de souveraine hauteur, une nuit qu'elle le rencontra au bal. « Pas pour le moment, » répliqua-t-il. Sur ces entrefaites, Aragny fut rappelé à pêche par la maladie d'un oncle, palatin supérieur et conseiller intime, dont il était l'héritier unique. Excellente occasion de rompre, qu'il n'eut garde de manquer. Esquivant des adieux, que dans l'état passionnel de Jeanne il soupçonnait de voir être dramatique, lâchement, sans la revoir, il partit un matin, et se contenta d'envoyer de là-bas une de ses lettres infinies comme il savait les écrire, en un style somptueux qui ornementait jusqu'au désespoir. Il y annonçait sa nomination d'aide de camp de l'empereur, et y laissait pressentir son mariage. « Double résultat, disait-il, d'une machination de famille dont il était la première victime. » Pour un peu, il eut demandé des prières publiques. Au reçu de cette nouvelle, Jeanne fut bien près de devenir folle. Elle songea à le suivre. Une nuit même, elle prépara son départ, brûla des lettres, des comptes, des factures, écrivit un petit état de ses dettes en retard, emplit un sac de quelques objets de prix qui lui appartenaient. Puis, le matin venu, elle pleura beaucoup et resta.